La foi no 32. La foi pour écouter la. Le 13 mars 1960. Brian Kozurek. Hier matin, je me suis réveillé pour écouter le sermon de frère Branham intitulé « Écoutez-le », qu'il a prêché le 13 mars 1960. Il y avait tellement de choses qu'il a dites dans ce sermon, qui sont exactement les choses sur lesquelles j'ai prêché durant tant d'années, que le Saint-Esprit a parlé à mon cœur et m'a dit « Mets cette bande pour les gens dimanche matin ». Et tout de suite, j'ai pensé, j'ai essayé mais je n'arrive pas à le dire comme il l'a dit. C'était tellement parfait. Sister, pourquoi je dois mettre la bande pour les gens? Merci Seigneur de m'avoir donné cette bande pour tes enfants. Avec cela à l'esprit, nous entendrons, dans ce sermon, frère Branham nous parler de la condition que Dieu veut que l'Église atteigne avant la venue du Seigneur. Écoutez attentivement ces paroles et observez les mots que j'ai soulignés, et surtout, ceux qui sont surlignés. Non seulement Dieu désire tellement voir ses enfants être comme lui, agir comme lui, parler comme lui et faire également les œuvres qu'il a faites, mais toute la création gémit et attend que les fils de Dieu soient manifestés et placés comme fils. Et frère Branham dit, dans ce sermon, que lorsque cela commencera à se manifester dans l'Église, ce n'y serait que pour une très courte période, puis nous rentrerons chez nous dans l'enlèvement. Alors, que Dieu vous bénisse tous pendant que vous écoutez son prophète, ce matin, et j'espère que vous apprécierez cette bande autant que moi. Fr. Branham, écoutez le dîme 13 mars 60 page 13 maintenant, inclinons la tête juste un instant pour la prière. Maintenant, Père Céleste, certainement que nous voulons vraiment te remercier. Car c'est ta grâce qui a fait tout ceci pour nous. Ce que nous avons fait, Seigneur, c'est venir ici communier avec les églises, avec les frères, avoir l'occasion de rencontrer encore ces précieuses âmes. Nous nous sentons comme Paul, quand on l'avait suivi jusqu'au rivage de la mer, et ensuite ils se sont agenouillés et ils ont prié. Seigneur, ce même esprit vit dans des hommes et des femmes ici même à Phénix. Et quand nous les voyons, et que nous parvenons à communier une fois de plus, parler de toi et de ta venue, prêcher la parole, et voir tes enfants malades être aidés, les églises être renforcées de nouveaux membres qui viennent, nous te sommes très reconnaissants, Seigneur. Ça a été la grâce étonnante. Nous te prions de bénir cette ville ainsi que tous ses ministres, que l'Église grandisse et prospère par Jésus-Christ. Maintenant, nous en arrivons à la parole, au mot de clôture de ce réveil. Père divin, nous voulons que le mot de la fin te revienne. Nous voulons sentir ta bénédiction sur nous et entendre ta voix nous parler une fois de plus ce soir. Alors que nous cherchons à lire ta parole sacrée, sainte et inspirée, nous prions que le Saint-Esprit prenne les paroles et qu'il les dispense au cœur, individuellement, selon qu'il le désire, et là où on en a besoin. Que la semence tombe, dans un terrain fertile, qu'elle devienne de grands arbres du salut. Accorde-le, Seigneur. Bénis-nous et aide-nous alors que nous poursuivons le service. Au nom de ton précieux et bien-aimé Fils, le Seigneur Jésus, nous le demandons. Amen. Ce soir, je souhaiterais prendre Matthieu, chapitre 17, lire juste un instant quelques versets. Pendant que vous les prenez, j'aimerais dire aussi à l'assistance que j'apprécie vos compliments à l'endroit de mon associé, frère David Duplessis. De bonnes choses dont j'ai entendu parler sur son enseignement, je vous remercie tous pour vos compliments. Je suis sûr que cela vous fera du bien. Maintenant, l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 1. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » J'aimerais prendre comme sujet ces trois derniers mots, écoutez-le, Irim. Je reviens encore ce soir avec un passage très court pour une telle assistance. Trois mots. Mais ils sont, si nous pouvons obéir à ces trois mots ce soir, vous verrez une répétition de la Pentecôte dans ce bâtiment. C'est Esther bien petit, mais, oh, il y a là-dedans assez de puissance, que le reste de la Bible se raccorde à cela. Écoutez-le. Ce n'est pas beaucoup de mots. Parfois, nous avons trouvé des frères de la précieuse foi, et j'ai entendu cela moi-même, lorsqu'ils disaient, « Oh, frère Branham, je ne pense pas qu'il soit nécessaire pour moi d'aller plus loin. » J'ai été là entendre Billy Graham, et, oh, il y a eu beaucoup de milliers de gens. Et j'ai été là entendre notre très noble frère, Oral Roberts, des milliers de gens ont assez sous tente. On dirait donc que peut-être ma petite foule Néhémie représente pas grand chose. Mais vous êtes vraiment en erreur. Appréciez-vous votre doigt? Vous Néhémie voudriez pas que votre doigt dise, parce que je Néhémie suis pas un œil ni une oreille, je n'agirai plus. C'est Esther très différent. Cela me rappelle une petite histoire. Une fois, lors de la visite du feu roi George au Canada, sa précieuse femme et lui. Le roi souffrait à ce moment-là de sclérose en plaques, pour lequel il a envoyé, un peu plus tard, un télégramme, et j'ai eu le privilège de prier pour lui, et j'ai reçu une lettre de sa part. Et le jour où il devait parcourir Vancouver, en Colombie-Britannique, il était assis dans son char, parcourant la rue. Et tous avaient fait sortir les enfants des écoles, les enseignants, et ils se sont apprêtés à accueillir le roi et à passer un grand moment. Et je me souviens de mon associé, frère Baxter. Frère Baxter a dit, frère Branham, alors que je me tenais là, regardant le roi passer, avec sa charmante épouse dans ses jolies robes bleues, a-t-il dit, j'ai simplement souri et j'ai pleuré. Vous voyez, cela représentait quelque chose pour lui. C'était le roi et la reine qui passaient. Et je me suis dit, si de voir le roi de la Grande-Bretagne passer les Canadiens, qui sont une partie de ses sujets, s'ils peuvent éprouver ce genre de sentiment, de l'émotion, de voir le roi d'Angleterre passer. Qu'en sera-t-il lorsque le roi de gloire passera? On avait remis à tous les petits-enfants un drapeau britannique et, au passage du roi, ils devaient l'agiter, étirer et chanter que Dieu sauve le roi, à son passage. Et le moment venu, le roi a parcouru la rue et il est rentré dans son hôtel, où je n'ai mis c'est où il devait rester, les enfants ont dû retourner à l'école. Et dans une certaine école, tous étaient revenus sauf une petite fille. Et cela préoccupait la monitrice. Elle est allée dans les rues à la recherche de la petite fille, et elle l'a retrouvée debout à côté d'un poteau télégraphique, appuyée contre, pleurant simplement à chaudes larmes. Ainsi donc, elle a couru vers la petite fille, petite de taille, elle l'a prise, Et cette dernière sanglotait comme si son petit cœur allait éclater. Et la monitrice a demandé, « Pourquoi pleures-tu ? Chérie, n'as-tu pas vu le roi ?» Elle a dit, « Si, je l'ai vu. » « Eh bien, a-t-elle dit, as-tu agité ton drapeau en guise de loyauté à son passage ?» Elle a dit, « J'ai agité mon drapeau à l'intention du roi à son passage. » « Et tu l'as vu ?» « Oui, je l'ai vu. » « Alors ?» a-t-elle demandé, « Pourquoi pleures-tu ?» Elle a dit, « Monitrice, moi, j'ai vu le roi, mais je suis si petite que le roi Néhémie m'a pas vu. » Ce n'est-ce pas ainsi avec Jésus. Peu importe combien insignifiant est-ce ce que vous faites, il connaît tout ce que vous faites. Cela est enregistré au ciel, dans votre compte autant qu'il l'est dans celui de Billy Graham, ou celui d'Oral Roberts, ou de n'importe qui parmi ceux qui tiennent de grandes réunions. Ce Néhémie sont pas de grandes choses que nous faisons parfois qui comptent. Ce sont de petites choses que nous manquons de faire. Or, Jésus-Néhémie fait point exception de groupe. Jésus se réunit avec toutes sortes de groupes, de toutes dimensions et de gens de toutes les couches sociales. Une fois, il nous est rapporté qu'il a tenu une réunion avec 500 personnes, une autre fois avec des milliers. Une fois, nous le voyons avec 12 personnes, une autre fois avec 3, et même avec une seule personne. Peu importe la dimension du groupe, l'essentiel, c'est que Jésus soit là pour s'assembler avec ce groupe-là. Peu importe combien votre église est petite, combien elle est grande, à combien de gens vous prêchez, la question est la suivante, êtes-vous tellement abandonné à Dieu que Jésus se réunira avec votre groupe? Ceci a dû être une occasion spéciale, une grande occasion. Pierre a appelé cela plus tard la montagne sainte. Eh bien, je n'ai pense pas que Pierre voulait dire que la montagne était sainte. Je crois que Pierre voulait dire que le Dieu saint les avait rencontrés sur la montagne. Ce n'est pas une église sainte, ce n'est pas un peuple saint, c'est le Saint-Esprit dans les gens qui fait qu'il soit quelque chose. Ce n'est pas l'Église, ni les gens, c'est le Saint-Esprit. Quand Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose d'important, généralement, il le déclare premièrement dans les cieux. Et ceci a dû être une occasion spéciale. Il montait à ce que nous appelons la montagne de la Transfiguration. Et il avait dit quelques jours auparavant, « En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici Néhémie mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de, le royaume de Dieu venir dans sa puissance. » Je pense que, peut-être, tous les ministres, ou beaucoup parmi eux, savent que cette disposition représente elle est venue, l'ordre de la venue de Christ. La première chose qu'ils ont vue, et l'ordre qu'il y avait. Ils ont vu Jésus qui devait apparaître, et puis, ils ont vu la venue de la glorification, Moïse et Élie, l'ordre même de la seconde venue. Puis, quand ils ont regardé de nouveau, ils ont vu Jésus seul, quand ils ont regardé de nouveau. Eh bien, nous voyons qu'il les a amenés là-haut à dessein. Il en avait amené 3. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau aussi, 3. C'est la confirmation. Toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. C'est tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Et nous voyons que Jésus a pris avec lui, Pierre, Jacques et Jean. 3 témoins terrestres pour rendre témoignage. Et Dieu avait sur la montagne, Moïse, Élie et Jésus. Comme témoin céleste. Dieu était sur le point de faire quelque chose d'important. Ce que je pense que Dieu faisait ici, l'une des choses sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, je pense que Dieu chercha à placer, ou à observer ses propres lois. Dieu doit observer ses propres lois. Il doit vivre conformément à ses propres lois. Sister, pourquoi je crois que Jésus était plus qu'un prophète? Jésus était Dieu fait chair. Dieu Naomi pouvait pas envoyer notre personne, née d'un homme et d'une femme, prendre la place et être, prendre le, engloutir la mort. En effet, Dieu a eu à subir son propre châtiment. Dieu Naomi pouvait pas mourir en tant qu'esprit. Aussi a-t-il été fait chair et habité parmi nous pour subir la mort. Et notre condamnation fut placée sur son précieux corps, et il est mort pour nous tous. Là, dans ce précieux corps qui est assis à la droite de la majesté divine ce soir, Dieu Naomi peut plus considérer la maladie, elle est condamnée. Il Naomi peut plus regarder au péché, il est condamné. L'expiation se trouve là, le corps brisé et puis flagellé du Seigneur Jésus, placé à sa droite au ciel. C'est ce qui nous donne la foi, parce qu'il est placé là, intercédant sur base de notre confession. Ici aussi, Dieu accomplissait ce que nous appelons dans la Bible le placement d'un fils. Eh bien, dans l'Ancien Testament, quand un enfant naissait, un fils dans un foyer, alors ce fils, évidemment, était un fils aussitôt né. Il était le fils du Père. Mais cependant, avant de devenir héritier du royaume de son Père, ou des biens, ce fils devait d'abord être formé et éprouvé. On devait découvrir si c'était un fils fidèle ou juste un simple ouvrier. Et ce fils Naomi devenait jamais héritier si Naomi remplissait pas les conditions pour remplacer son père. Mais s'il remplissait les conditions, il remplaçait le père, alors tout ce que le père détenait était confié à son fils. C'est là que, je pense, beaucoup parmi nous les pentecôtistes ont commis l'erreur. Nous pensons qu'aussitôt que nous sommes devenus fils et filles de Dieu, c'est réglé. Nous accédons simplement à l'étape de l'épreuve. Les méthodistes ont dit qu'aussitôt qu'ils avaient crié, c'était réglé. Les luthériens croyaient, par la foi, à la justification, et ils avaient pensé que c'était réglé. Peu importe le type de position dans laquelle Dieu vous a placé, vous continuez cependant à grandir. Attendre vers la perfection. Et nous n'atteindrons jamais cela avant la venue de Jésus. Bon. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait son royaume, composé de gens considérés justes comme ses sujets, sous les anciennes lois. Eh bien, un père était propriétaire d'une concession, il louait la main d'œuvre et tout, là sur la concession. Nous voyons dans la version King James, dans Jean 14. Nous lisons là, il y est dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Cela sonne étrange, n'est-ce pas, des demeures dans une maison. Je n'ai sais pas si c'est Moffat, l'un d'eux que je lisais, l'un des traducteurs qui a rendu cela de façon plus ridicule que ça. Il a dit, dans l'immeuble de mon père, il y a plusieurs appartements, comme si nous allions là-haut pour avoir des appartements à louer. Non. C'est tout faux. Et à l'époque des traducteurs de la version King James, d'après ce qui m'a été dit, ils ont traduit dans le langage de leur époque. Eh bien, en Angleterre et en Angleterre, en fait, le roi était le père, et tout son domaine, c'était sa maison. C'était parfaitement en ligne avec l'Ancien Testament, le père était, avait son domaine, et il était le chef de ce domaine. Et aussitôt qu'un enfant naissait, le père étant tellement occupé à d'autres choses, cherchait un tuteur ou un précepteur pour son enfant. Et alors, comme il savait que cet enfant deviendrait héritier de tout ce qu'il détenait, ses biens, sa réputation, tout ce qu'il avait reviendrait à ce fils. Il cherchait le meilleur enseignant qu'il pût trouver pour enseigner cet enfant. Et Dieu fait de même pour ses enfants. Quand un homme naît dans le corps du Seigneur Jésus et qu'il devient fils de Dieu, Dieu a cherché dans les cieux le meilleur tuteur, qu'il connaisse pour l'établir sur ses enfants. Et ce n'est Esther pas un évêque? Mais c'est Esther le Saint-Esprit que Dieu a placé sur son Église, pour lui enseigner à croire les choses spirituelles et les œuvres surnaturelles de Dieu. Il Néhémie placerait pas sur son Église un évêque qui Néhémie, croit pas dans les jours de, qui croit que les jours des miracles sont passés et que tout le surnaturel est terminé. Dieu Néhémie ferait pas cela. Et le Saint-Esprit fut envoyé pour conduire et guider l'Église. Dieu a chargé le Saint-Esprit de faire cela. Le père Néhémie cherchait pas un homme qui essaierait d'avoir une plume à son chapeau, comme nous le disons, et qui dirait, eh bien alors, il va, il sait que c'est Esther moi le père. Alors il va, le fils, le petit, le renégat, par exemple. Mais il viendrait et, pour avoir une plume à son chapeau, oh, ton fils évolue très bien. Il Néhémie ferait pas cela. Il trouvait un homme qui lui dirait les vérités, car il voulait savoir avec exactitude l'évolution de son fils en tout moment. C'est Esther ce que Dieu a fait. Il n'a jamais confié cela à un quelconque pape, évêque, ou n'importe qui d'autre. Il a envoyé le Saint-Esprit sur l'Église pour être l'enseignant et le précepteur de l'Église. Par conséquent, le Saint-Esprit sera honnête avec Dieu. Et alors, ce précepteur, ce tuteur était censé venir faire rapport au Père sur l'évolution de l'enfant. Et ce tuteur devait rougir si cet enfant se comportait mal acquis. Si le tirait le petit enfant Néhémie s'intéressait pas aux choses de la ferme ou du royaume de son père. Oh! Quel sentiment le! Comment nous avons totalement mis de côté le baptême de l'esprit? Comment les églises ont l'apparence de la piété et renie ce qui en fait la force? Combien il doit rougir en disant, tes fils habillent de façon immorale. Oh! Vraiment? Il doit rougir en disant, les enfants n'arrivent même pas à s'accorder assez longtemps pour avoir une réunion. Oh! Comme on se moque de ton peuple qui a été appelé à sortir et qui est rempli de l'Esprit. Quel sentiment le Saint-Esprit doit éprouver en s'avançant devant Dieu avec des tels messages. Il revient dire qu'ils ont l'apparence de la piété, ils n'y croient plus dans le surnaturel. Ils n'y vont même pas à l'église le mercredi soir. Ils restent pour suivre leurs émissions favorites à la télévision. Comment ça doit être? Était donc que tu as envoyé à ton église pour confirmer ta parole promise? Les gens s'en éloignent et les taxent des œuvres du diable. Eh bien, rappelez-vous, le Saint-Esprit doit rapporter à Dieu tout ce que dit tout celui qui se dit chrétien à ce sujet. En effet, il a envoyé, eh bien, peut-être que le Père demandera, as-tu fourni des efforts? As-tu frappé à la porte du cœur? J'ai frappé soirée après soirée. Et ils n'y veulent pas entendre. Quel sentiment il doit éprouver? Comment peut-il, il nous a fait confiance? Comme il avait fait confiance à Adam et Ève? Il les avait placés dans le jardin d'Éden? Il leur a confié d'être droit, d'obéir à sa parole. Ils étaient tombés. Et aussitôt qu'un homme prend les choses en main, il tombera toujours. Il ne peut pas les tenir lui-même. Il faut que ça soit Dieu qui nous tienne. Et alors, si cet enfant, ce fils, n'obéissait pas et n'était pas un enfant obéissant, il ne restait pas plus pas moins un fils. Il demeurait un fils. Mais cependant il n'avait pas d'héritage. Eh bien, nous n'aimerions pas demeurer à ce niveau-là. L'Église devait être à 1000 kilomètres plus avancée sur la route qu'elle n'est mis l'Esther ce soir. Les bénédictions de la Pentecôte tombent sur les gens ici en Amérique depuis 50 ans. Et si quelque chose, nous régressons plutôt que d'avancer. Pourquoi prêchez-vous cela? Frère Branham, j'aimerais voir l'Église de Dieu vivant dans une profonde sincérité. J'aimerais voir des réunions de prière à l'ancienne mode. J'aimerais voir ce temps où on n'arrivait pas à quitter l'église, où on reste simplement toute la nuit, on prie, on jeûne, on invoque Dieu jusqu'à ce qu'il exauce. Au lieu de cela, on dirait que l'amour a diminué en nous. L'amour de Dieu, juste l'amour, eh bien, un vrai chrétien peut à peine attendre. Quand les cloches sonnent, il occupe le siège de devant, et là il espère prêt, son recueil des cantiques en main. Mais aujourd'hui, nous disons, oh, là là, je n'ai mis ses pas, oh, béni soit le lien qui unit nos cœurs dans l'amour chrétien, la communion des âmes sœurs, ressemble à celle d'en haut. Quand nous nous séparons, cela nous cause de la peine, mais nous restons unis dans le cœur, espérant nous revoir. S'estère comme ça, le vrai christianisme estère une expérience vivante. La Pentecôte n'estère pas une dénomination, la Pentecôte estère une expérience que n'importe qui peut avoir s'il le désire. S'estère quelque chose que vous expérimentez, le Saint-Esprit. Eh bien, quand ce jeune homme, s'il grandissait comme cela et qu'il n'était pas obéissant, qu'il n'agissait pas comme son père, qu'il n'y cherchait pas à s'occuper des affaires de son père tel que son père le faisait, alors cet enfant-là manquait tout son héritage. Un autre frère devait prendre sa place. Eh bien, aujourd'hui, si nous cherchons à amener l'Église devant Dieu, juste sur base du credo commun de l'Église ou de la théologie, ce n'est pas ainsi que Jésus a amené l'Église devant le Père. Dieu veut que l'Église soit remplie du Saint-Esprit, qu'elle accomplisse les mêmes œuvres que lui avait accomplies lorsqu'elle était ici sur terre. C'est le genre d'Église que l'enseignant, le Saint-Esprit, aimera présenter devant Dieu. C'est comme je vous l'ai dit une fois ici, le contrat que, dans l'Ancien Testament, une fois rédigé, il était ensuite déchiré, et lorsqu'on rassemblait cela, il devait s'ajuster. Chaque morceau de papier devait bien s'ajuster, et tout le programme devait bien être en ligne. Dieu a confirmé son alliance avec le peuple d'Isaac à Christ, il a déchiré le Messie en deux au calvaire. Il a pris le corps et l'a placé à sa droite, il a envoyé l'Esprit ci-bas sur l'Église. Et l'Église devra avoir le même esprit, accomplir les mêmes choses que Jésus, sinon elle n'ira jamais dans l'enlèvement. S'ajuster, on prend ce morceau de papier ici et on le déchire. Eh bien, vous Néhémie pouvez pas imiter cela même s'il vous le fallait. Cela doit reconstituer le même papier, de telle manière que ces lettres soient exactement comme elles étaient. C'est exactement ainsi que l'Église doit être. Jésus s'occupait toujours des affaires du Père, faisant ce qui était correct à ses yeux, pas juste s'occuper de ceci et de cela, ce que l'Église commence à faire, mais s'occuper des affaires du Père, et Jésus en avait le témoignage, je fais toujours ce qui est agréable au Père. Le type, Enoch. Avant l'enlèvement, Enoch a marché avec Dieu pendant 500 ans, il a eu le témoignage de lui être agréable. Il était un type de l'Église enlevée. Oh! Mais ça nous fait défaut. Alors, cet enfant-là, Dieu devait susciter un autre enfant. Et si les pentecôtistes déçoivent Dieu, de ces pierres Dieu est-il capable de susciter des enfants à Abraham? Dieu peut-on susciter chez les luthériens, les baptistes, les presbytériens, de ces pierres? Dieu est-il capable de susciter des enfants à Abraham? Quelqu'un va saisir la vision et prendre la relève. Je n'ai pas l'intention de vous assourdir les oreilles ou d'effrayer les enfants, mais j'ai beaucoup de pression, et il me faut bien laisser échapper cela quelque part, cela s'accumule. Je me sens bien, je me sens religieux. En effet, je sais que le Saint-Esprit même, qui a écrit la parole Esther ici, la confirmant, Parole sur parole. Lettre sur lettre. Règle sur règle. Règle sur règle. Un peu ici. Un peu là. Retenez ce qui estère bon. Car s'estère par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que je parlerai à ce peuple. Et voici le repos. Le sabbat. Et tout cela. Ils n'aiment, ils l'entendent pas. Car la parole vient lettre sur lettre. Règle sur règle. Eh bien, si donc cet enfant-là n'obéissait pas, Néhémie s'occupait pas des affaires du père, Dieu pouvait se susciter un autre enfant. Et s'Esther ce qu'il a fait au cours des âges, susciter un Luther, susciter les méthodistes, susciter les nazaréens, susciter les pèlerins de la sainteté, susciter la Pentecôte. Il continuera à susciter, susciter, susciter jusqu'à ce qu'il en trouve un. Alléluia. Ô Dieu, j'espère vivre jusqu'à voir cette Église, lorsqu'elle se lèvera dans la puissance et la beauté de la résurrection, avec la puissance de Dieu opérant au travers d'elle, des signes et des prodiges accompagnant les croyants, comme c'était le cas dans le Tire et dans le Nouveau Testament. Dieu, par sa puissance et sa force, oh, comme c'est-ce merveilleux. Si donc cette Église obéissait, oh, comme le tuteur aimerait venir devant le Père et dire, oh, il est vraiment merveilleux. Eh bien, tu, cela, l'œuvre est accomplie bien exactement comme tu le faisais. Saisissez-vous ce que je veux dire? Ton fils là-bas. Père, exécute le travail, tes instructions bien à la lettre, comme tu le faisais. C'est-ce le genre d'église? C'est-ce ce genre-là? Alors, le Père dit, certainement. Je suis fier de ce fils-là. Savez-vous ce qui arrive? Lorsqu'il reçoit son instruction, sa formation, cependant, il n'était peut-être pas en mesure d'exercer toute l'autorité, il n'en avait pas encore. Il était toujours un fils, mais il n'était pas placé. Eh bien, vous les ministres, vous savez où à quoi j'en viens, au placement d'un fils. Eh bien, si ce fils-là s'avérait un bon genre de fils, il aimait les affaires du père, il suivait bien ses instructions, alors un certain jour, le père amenait ce fils-là devant le public, il l'installait sur un lieu élevé, le revêtait d'un bel habit. Et il procéda à ce qu'on appelle l'adoption d'un fils, ou le placement d'un fils dans sa position. Il organisa une cérémonie, et alors le père déclarait, « Mon fils que voici, je l'adopte ou je le place dans sa position. » Et si, à l'époque, il y avait des carnets de chèques, le nom de ce fils-là sur le chèque était tout aussi valable que celui du père, car il avait été placé. Et le fils pouvait renvoyer du travail qu'il voulait. Il pouvait engager qu'il voulait. Il était en pleine possession de tout ce que le père avait. Eh bien, vous voyez, Jésus s'estère avéré devant Dieu, le genre correct de fils. Et le père l'a amené au sommet de la montagne. Il a fait venir des témoins là-bas, des témoins célestes et des témoins terrestres. Et il m'a revêtu de l'immortalité. Quand ils ont levé les yeux, ils ont dit, ses habits brillaient comme le soleil. Quelque chose de surnaturel était arrivé. Ses vêtements brillaient comme le soleil au zénith, aussi blanc que possible. Dieu l'a revêtu de cette robe de l'immortalité, montrant qu'il l'avait acceptée. C'est-ce que Dieu fera pour ses fils ici sur terre un jour. Il vous appellera à l'écart, Église, si seulement vous lui obéissez, que vous vous teniez sur la parole et que vous la croyez. Il placera dans l'Église, avant la venue de Jésus-Christ, il placera dans l'Église, toutes les puissances que Christ avait en lui seront dans l'Église. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Jésus. Tout ce que Jésus était, il le déverse dans l'Église. Dieu veut que son œuvre soit accomplie, Il a envoyé cela dans son Fils. Le Fils, voulant que l'œuvre soit accomplie, a envoyé cela dans l'Église. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que le Père est en moi, et que moi, je suis en vous, et que vous êtes en moi. En ce jour-là, en effet, la même puissance de Dieu qui était dans Jéhovah Dieu repose en Jésus-Christ. La même puissance qui repose en Jésus-Christ repose dans les fils placés dans le corps de Christ. Le placement d'un fils, on l'amène à un certain endroit, on tient une cérémonie devant les anges, on le place dans sa position, ce qui laisse terre dans le corps de Christ. Alors, cette personne a l'autorité. Permettez-moi de dire ceci, même si vous me prenez pour un fanatique à partir de soir. Cette même chose dont je parle s'accomplira. Il y aura une puissance qui entrera dans l'Église. Elle est terre en train d'y entrer maintenant. Le Saint-Esprit va tellement oindre les gens qu'ils prononceront la parole et elle se créera la même. Nous n'avons pas vu de puissance comme celle qui entre dans l'Église maintenant. Je sais que c'est terre un fait. Dites à cette montagne, ôte-toi de là. Néhémie doutait point en votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrive, vous le verrez s'accomplir. Le placement de l'Église dans la position, là où la plénitude de la puissance du Saint-Esprit entre dans l'Église. Alors, cela fera taire les critiqueurs. Ça sera un temps court. Jésus est directement descendu de la montagne et est allé droit au calvaire. Remarquez, cela ne m'y traînera pas longtemps, mais cela aura lieu ici. Eh bien, quand le surnaturel est accompli lors de la consécration, quand le surnaturel est accompli, cela excite les gens. Cela les amène à être tout excités et à perdre la tête. Quand Moïse a accompli le surnaturel là en Égypte, il y a eu une foule de gens de toute espèce qui est allée avec eux. Cela avait causé du trouble dans le camp. Vous le savez, tous les lecteurs de la Bible le savent. Cela a suscité une foule de gens de toute espèce, les croyants mêlés aux incroyants. Cela a causé du trouble plus tard dans le camp. Quand le surnaturel est accompli, cela excite les gens et ils font fausse route. C'est la même chose qui est arrivée parmi les pentecôtistes. Le surnaturel a été accompli. Dieu a déversé la première chose, le don du Saint-Esprit, leur permettant de parler en langue. Et on a alors eu beaucoup d'imitations de cela, de comparaison charnelle. Des hommes sages nous les répètent un mot à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils attrapent une espèce de langue dans laquelle parler. Ou que le surnaturel commence d'une façon ou d'une autre à être accompli, alors quelqu'un cherche à imiter cela. Savez-vous que Dieu n'a jamais créé deux hommes identiques? Il n'y a pas deux personnes parmi vous dans le monde entier, ou il n'y en a jamais eu, qui a les mêmes empreintes digitales. Dieu a créé des hommes différents, et il a divers dons, il les envoie à son Église. Mais nous nous cramponnons simplement à l'un. Et ça y est, voyez-vous? Vous Néhémie recevez pas la sagesse de l'Esprit. C'est pourquoi Dieu Néhémie peut pas nous placer dans la position où nous devrions nous retrouver dans son corps. Car à l'un, il a été donné telle sorte de don, à un autre, telle autre sorte de don, à un autre, telle autre sorte de don encore, et ainsi de suite, mais tous forment le même corps. Mais nous aimerions être exactement comme tel autre. Vous Néhémie pouvez pas y arriver. Vous devez vous servir de la sagesse de la parole. La Bible est notre modèle. Eh bien, une fois ce fils placé, Dieu a placé son fils suivant la même loi qu'il leur avait ordonnée. Eh bien, quand il a ordonné qu'il y aurait la mort à cause de la désobéissance, Dieu est descendu, il a été fâché, il s'est chargé de la désobéissance, et il est mort pour la race humaine, afin qu'il portât la mort sur, où ils se sont chargés de la mort, et il a accepté la mort à leur place, afin de pouvoir les racheter. Comme pour le placement d'un fils qu'il avait ordonné dans l'Ancien Testament, Dieu est descendu, il a placé son propre fils. Juste quand ils étaient montés à la montagne, et tout d'un coup, le tire-l'ange du Seigneur est revenu et la puissance du Seigneur les a couverts de son ombre. Et ses vêtements se sont mis à briller comme le soleil. Et ils ont vu Moïse et Élie lui apparaître et lui parler. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Tout pouvoir au ciel et sur terre lui a été donné, il a été obéissant. Il est donc le fils de Dieu. Dieu place son propre fils. Écoutez, écoutez-le. Eh bien, qu'arriva-t-il là? Aussitôt que le surnaturel fut accompli, Pierre fut tout excité. Il dit, « Je vais vous dire ce que nous allons faire. Dressons trois tentes ici. Formons trois différentes dénominations. Trois différentes tentes. Nous en aurons une pour ceux qui aimeraient observer la loi de Moïse. Nous les laisserons adorer dans cette tente-là. Ceux qui veulent observer les paroles des prophètes, nous les laisserons adorer dans cette tente-ci. Et ceux qui veulent croire ce que Jésus a dit, nous les garderons dans cette tente-là. Je suis très content que Dieu a arrêté cela. Et si nous avions observé la loi à la justice sans miséricorde, vous Néhémie pouvez pas être sauvés par la loi. La loi n'a pas de salut. La loi vous condamne seulement. Elle vous dit que vous êtes un pécheur et coupable, mais elle n'a pas de miséricorde. C'est Esther un policier qui vous jette en prison sans aucun moyen de vous en faire sortir. Je suis content que nous n'ayons pas à écouter Moïse. Car c'est Esther lui qui a apporté la loi. Et les prophètes représentaient la justice. Je n'aime, il veut pas la justice de Dieu. Non. Je veux sa miséricorde. Pas la justice. Si on m'appliquait la justice, je serais condamné. Je veux la miséricorde. Je n'implore pas sa justice, j'implore sa miséricorde. Moïse, ou Élie, c'est Esther lui qui représentait les prophètes, il est monté à la montagne, il s'est assis là-bas. Personne Néhémie devait s'approcher de lui. Et un roi insensé a envoyé 50 personnes. Il a dit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. La justice, je n'en veux pas. » Mais avant que Pierre eût terminé de parler de ces trois différentes tentes, une voix a fait entendre de la gloire ses paroles, « Celui-ci est Esther, mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Moïse était parti, la loi Esther passée, les prophètes sont passés, mais celui-ci est Esther, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Peu importe où vous êtes, écoutez-le. Peu importe ce que n'importe qui dit, ce que maman dit, ce que papa dit, ce que la loi dit, ce que n'importe qui d'autre dit, écoutez-le. Il est la voix éternelle. Dieu l'a placé dans sa position en tant que votre médiateur, en tant que votre père, en tant que votre Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mes amis, les gens de cette nation et de ce monde, je les trouve dans mes voyages à travers le monde, vraiment affamés du véritable et authentique christianisme. Nous avons trop de montages, trop de fabriqués, trop d'imitations, au point que le monde a vraiment faim de voir quelque chose de réel. Quel coup l'autre jour, quand M. Graham a laissé ce groupe de païens se tenir là et le défier sur l'évangile qu'il prêchait. Je n'ai mis c'est pas ce que j'aurais fait, mais je pense que je serais comme les enfants hébreux, notre Dieu est capable de nous délivrer de cette chose. Je n'ai mis permettrait pas que l'évangile soit foulé aux pieds. Écoutez, on en arrive au point où, amis, le monde devient si horrible qu'on va vous exiger des épreuves pour chaque portion de terrain où vous vous tenez, Satan va le faire. Et on en arrive au temps où les imitations et les pensées charnelles vont être ôtées par circoncision du véritable et réel corps de Christ. Et il aura un corps pur, saint, rempli de son esprit, marchant par son esprit et accomplissant les œuvres qu'il avait accomplies. Soyez-y fidèles. Ils veulent quelque chose de réel, ils ont faim et soif de trouver la véritable chose. Ils n'y veulent pas de la psychologie, ils n'y veulent pas d'un discours intellectuel, ils veulent quelque chose qui rassure, quelque chose qui fait revivre la Bible. À ma descente de l'avion à Bombay en Inde, où nous avons eu notre plus grand rassemblement, évalué à quelque 500 000 personnes en une réunion, la première personne que j'ai rencontrée à l'hôtel Taj, où il y avait peut-être 400, ou plus, missionnaires rassemblés, c'était l'évêque de l'église méthodiste de là. Il m'a dit: Frère Branham, je peux être en désaccord avec vous sur votre doctrine concernant la guérison divine. Il a dit, mais vous avez une bonne réputation, et j'aimerais que vous gardiez cela sans tache, car ça représente quelque chose pour ces gens. Il a dit, mais Néhémie, vous dites jamais un missionnaire ici. Il a dit, nous avons eu la Bible avant, 2000 ans avant que vous deveniez une nation. Et c'est-ce vrai? Saint Thomas était allé apporter l'évangile en Inde. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont changé cela en une théologie intellectuelle. Et c'est en cela que ça consiste. Il a dit, nous avons appris, ici en Inde, que Dieu vous a donné un don qui fait revivre la Bible. C'est cela qui nous intéresse, faire revivre la Bible. C'est ce que des cœurs et des âmes affamées veulent, voir la Bible être rendue réelle, voir Dieu entrer en scène et agir comme autrefois, la parole vivante devenant quelque chose de vivant pour nous. Avoir soif des choses véritables, trop d'imitation. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette petite histoire ou pas, ça vaut peut-être encore la peine. Tout le monde sait que je chasse, j'aime chasser. C'est terminé, je n'y peux rien. Alors, un jour, je chassais dans les bois du Nord avec un ami. C'était un bon chasseur, un homme très bien sur terrain, un très bon, un tireur d'élite. Et ce n'était pas un homme que vous deviez tout le temps rechercher. Il tirait, il savait où il était dans les bois. Et j'aimerais chasser avec lui. Et nous nous séparions et je disais, je vous rencontrerai dans 20 miles, 32 kilomètres, à tel endroit, ainsi de suite. Il se trouvait là même. Ainsi donc, on n'avait point à s'inquiéter qu'il s'égare ou se perde. Il était michel indien et il connaissait les bois. Ainsi, un jour, je suis allé là-haut chasser avec lui. Mais c'était l'homme le plus méchant que je n'eusse jamais rencontré de ma vie, un homme cruel. Il tirait, il aimait tirer sur les petits fans, Sester le petit de serre, rien que pour m'indisposer, parce que j'étais un prédicateur. Et il se moquait de moi, disant, oh, toi poule mouillée. Sester, ça le problème avec vous les prédicateurs, vous êtes tous des poules mouillées. Je disais, Burt, ce n'est pas ça. Il disait, je pensais que vous étiez un chasseur. Je disais, je suis un chasseur, mais je ne m'y suis pas massacreur. Je disais, je tire et je ne m'y crois pas, je crois que c'est un crime que de faire cela, juste par méchanceté. Je ne m'y crois pas dans le fait de tuer les animaux comme cela, juste les considérant comme des cibles. S'il y a un meurtrier, c'est l'homme blanc. Amenez-le une fois là en Afrique, et observez-le, il tuera tant qu'il peut tirer et tuer. C'est vrai. Cela est simplement lui, c'est dans sa nature de faire cela. Exterminer ces pauvres Indiens assis ici. Oh! Il tuait leurs bisons et leurs biches. Il prenait simplement les osiers et autres, tirant sur eux comme sur des cibles. Il n'est pas étonnant qu'on éprouve un ressentiment à ce sujet. Dieu leur a donné cet héritage. Nous leur avons tiré dessus comme sur des cibles. C'est une honte, une disgrâce, une tache sur le drapeau, de tout. Mais rien qu'être un massacreur, et c'est ce qui t'aborte. Rien qu'un massacreur, il tuait simplement pour le plaisir. Il en tuait 4 ou 5 en une journée, rien que pour le plaisir. Une année, quand je suis allé là, il s'était confectionné un petit sifflet qui émettait un son semblable à celui d'un petit faon. Quand il crie, vous savez, réclamons sa maman. Et il me l'a montré, et je lui ai dit, Bert, tu n'y vas pas l'utiliser. Oh, a-t-il dit, ressaisis-toi, prédicateur. Il a dit, tu es à être poule mouillée. Et j'ai dit, Bert, voudrais-tu faire cela? Eh bien, a-t-il dit, suis-moi simplement et vois. Nous sommes allés à la chasse ce jour-là. Il y avait environ 6 pouces, 185 cm de neige. Un bon temps pour suivre la piste de l'animal. Mais les cerfs, après qu'on leur eut tiré quelques coups, ils deviennent très sauvages dans cette contrée-là. Les cariacous serrent la queue blanche. Ils peuvent se cacher et vous n'arriverez pas à les voir pour vous sauver la vie. Et ils n'y vont pas sortir la journée. Ils n'y le feront pas. Donc, si jamais ils sortent, vous allez les attraper juste à l'aube ou juste avant qu'ils n'y fassent sombre. C'est alors que vous les trouvez. Et nous avions chassé jusque vers 11 h sans même repérer une piste. C'était tard, avant que nous allions là. Et alors, la saison était ouverte depuis quelques semaines là dans la partie nord de la route. Elle s'ouvrait après Noël du côté sud de Tiret de la ferme présidentielle. Nous étions donc juste derrière Mont Washington. Et ce jour-là, pendant que nous chassions vers 11 h, généralement, nous emportions du chocolat chaud, ça donne beaucoup d'énergie. Nous emportions cela avec un petit repas sur le dos, et si nous nous perdions ou égarouillons, eh bien, nous pourrions retrouver notre chemin. Nous avions quelque chose à manger pour nous réchauffer si nous avions trop froid. Il faisait très froid. Et Bert s'est assis dans une petite clairière, resserré là. Et je le suivais. Car, généralement, nous nous séparions l'après-midi. Nous cherchions d'autres voies de retour à travers les, et alors, quand il s'est assis là, il a mis la main dans sa chemise comme ceci, je pensais qu'il allait prendre son chocolat chaud. Espace vide sur la bande tirée NDE, une grosse biche s'est relevée, en pleine vue. Eh bien, c'est un peu étrange pour elle de faire cela, à 11 h de la journée. Et il m'a regardé avec ses, d'un air penaud, et cette biche, il a encore sifflé, et la biche s'est avancée dans la clairière. Eh bien, c'est très inhabituel. Vous pouvez voir ses très gros yeux bruns et ses grosses oreilles tendues. Bert, nous n'emportions jamais un fusil chargé d'une balle dans la chambre. Il a donc tiré et il a chargé une balle. Et quand le fusil a fait le déclic, la biche a entendu cela. Et elle a regardé, tout autour. Et lui s'est relevé avec le fusil. Oh! Je, ce réticule était braqué droit sur le cœur de la biche. Je savais qu'en quelques secondes, il lui ferait sauter le cœur. Et je me suis dit, comment peut-il être si cruel? Je lui ai chuchoté, disant, Bert, tu n'y vas pas faire cela. Mais cette biche Naomi faisait pas semblant. C'était une mère. C'était inné pour elle d'être mère. Il y avait en elle quelque chose qui aimait le petit. Avez-vous déjà remarqué? Une jeune fille, à la naissance, elle, quand elle devient assez grande pour marcher, elle veut avoir une poupée. Qu'est-ce? Elle est-ce une mère dès le départ? C'est ça naturel. Et c'était naturel pour cette biche de rechercher ce petit. Elle s'est-ce retournée? Elle a regardé le chasseur en face. Elle a tendu ses grosses oreilles pendant un moment. Mais elle savait que ce petit était dans la détresse. Elle s'est-ce mise à le chercher. Quand je l'ai vu braquer le fusil, je me suis dit, oh, là là, comment peux-tu faire cela, Bert? Tu es cette pauvre mère qui se tient là comme cela, après l'avoir trompé que c'était son petit qui appelait, et peut-être qu'elle avait un petit là quelque part, elle a pensé qu'il était en difficulté, et elle le cherchait, parce qu'il pleurait. Eh bien, elle n'y faisait pas semblant. C'était authentique. C'était l'amour authentique d'une mère. Et quand il allait tirer comme cela, j'ai détourné la tête. J'ai dit, Père Céleste, sois miséricordieux envers lui. Je l'aime. Comment peut-il être si cruel? Cette grande loyauté de mère. Et voilà qu'il va lui faire sauter le cœur. Après l'avoir trompé et l'avoir entraîné dans la clairière. Cette mère infant quelque part ici, et lui a fait comme s'il était ce fan, réclamant sa mère en criant. Et j'ai attendu d'entendre le fusil détonner. J'ai attendu environ une minute, le fusil n'a point détonné. Je me suis demandé ce qui n'allait pas. Je me suis retourné pour regarder. Le canon du fusil allait comme ceci. Il n'arrivait plus à tenir cela davantage. Il s'est retourné vers moi, les larmes lui coulant sur les joues. Il a jeté le fusil par terre et m'a saisi par la jambe du pantalon. Il a dit, Billy, j'en ai marre. Conduis-moi à ce Jésus dont tu parles, qui est si doux et plein d'amour. Qu'était-ce? Il avait vu quelque chose de réel, il avait vu quelque chose d'authentique. Il avait vu quelque chose qu'elle n'imitait pas, elle n'y faisait pas semblant. Elle avait effectivement ce qu'elle manifestait. C'est-ce ce que le monde cherchait dans l'Église aujourd'hui? Quelque chose de réel. Oh! Avec le reste d'entre nous, Némi, voudriez-vous pas être un chrétien véritable et loyal dans votre cœur autant que cette biche était une mère? Némi, voudriez-vous pas avoir cela? Le voudriez-vous? Voudriez-vous lever la main pour dire, j'aimerais être comme cela? Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Vous ferez aussi les œuvres qu'il fait. Vous en ferez de plus grandes, ou davantage, a dit Jésus. Je m'en vais au Père. Ma prière est que Dieu vous accorde. À vous de Phénix ici. Que la loyauté de Christ soit dans votre cœur. Qu'elle y naisse par la nature du Saint-Esprit, qu'elle vous donne la fin de Dieu et fasse que vous soyez tout aussi loyaux envers Dieu et sa parole que ce brave fan. Cette brave biche s'est-elle avérée loyale ce jour-là envers son fan. Prions. Y aurait-il, par hasard, pendant que vous avez vos têtes inclinées, combien de pécheurs ici présents aimeraient qu'on se souvienne d'eux dans un mot de prière alors que nous terminons? Ce soir, voudriez-vous lever la main? Au balcon à ma droite d'abord. Que Dieu vous bénisse tous là-haut. Que Dieu vous bénisse. Juste désirer devenir un vrai chrétien, évidemment. Je n'ai aimé vous blâme pas. Vous avez vu beaucoup de gens faire semblant et agir comme, et vous en avez marre. Mais vous voulez être authentique. Mon frère, mon pauvre ami perdu, il existe un Jésus-Christ réel. Il existe un Père Céleste réel, un Saint-Esprit réel, des anges réels. Et il existe des chrétiens réels. Je prie que Dieu fasse de chacun de vous là dans ce balcon-là, à ma droite, vous qui avez levé la main, un chrétien comme cela. Oh, frères et sœurs, ce message, c'est-ce ce que j'essaie de vous prêcher depuis 10 ans maintenant? Depuis 2007 et je crois que c'est-ce là que Dieu veut que nous soyons. C'est-ce là que Dieu veut que ses fils et ses filles soient? Si réels, si authentiques, sans chichi, sans se concentrer sur les autres mais sur la volonté de notre Père. Jésus a dit, « Ma nourriture est-elle de faire la volonté de mon Père, et c'est-elle pour cela que je suis venu dans le monde. » Prions. Copyright Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2019. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.